Pilote de l'Alaska par K.A. Schwarzkopf, troisième cassette, première face, page 79. Nels. C'est important?
Oui, Nels. Je suis en train de penser à quelque chose. Cette mine d'uranium, elle est d'une grande valeur pour le pays, n'est-ce pas?
Bien sûr, John. Que veux-tu dire?
Eh bien, Nels, je pense qu'il y a d'autres pays qui ont des problèmes d'uranium et qui ne demanderaient pas mieux que de détruire nos ressources. Ce serait par exemple d'une simplicité enfantine pour des espions de faire sauter cette mine. Pourquoi? John!
Nels Van Berg s'était soulevé sur un coude. John voyait ses yeux briller dans l'obscurité.
Oui?
John, tu as fait allusion à une question que j'avais l'intention de garder pour moi. Mais puisque tu en parles le premier, j'ai essayé de croire aussi longtemps que possible que je me trompais. Il n'y a que ton oncle, ses hommes et les employés d'État de la fonderie qui savent qu'il y a de l'uranium dans la mine. Officiellement, nous avons dit que c'était du magnésium. Même les gars qui sont venus travailler ici ne se doutent pas qu'ils ont extrait de l'uranium. C'est tellement secret qu'on ose à peine penser que ce soit possible.
Je le sais, Nels. J'ai dû jurer la main sur la Bible devant mon oncle que pas une demi-syllabe à ce sujet ne sortirait de ma bouche en présence de non-initiés. Mais s'est-il passé quelque chose de nouveau?
Oui, John, et c'est ce qui me fait peur. Hier, par exemple, pendant ton absence, j'étais allé dans la mine charger une brouette. Et en sortant, j'ai vu quelqu'un courir comme un fou à travers les osiers. D'abord, j'ai cru que c'était un ours. Mais ensuite, je me suis rendu compte nettement que c'était le dos d'un homme. Un type qui courait tout recroquevillé pour ne pas être aperçu. Il a sauté dans le lit du ruisseau à l'ouest du village. Ensuite, il a disparu, comme englouti par la terre.
Et tu en es absolument sûr?
Comme de deux et deux font quatre. Je suis descendu sur la rive et j'ai vu des traces à plusieurs endroits, des semelles de caoutchouc rayées, du 45, je suppose. Il est venu fureter dans les blocs de minerais.
Mais a-t-il volé quelque chose?
Probablement. J'ai pensé d'abord que c'était peut-être un peau rouge curieux en vadrouille. Mais il ne se comporte pas comme ça. D'ailleurs, nous n'avons pas de voisins. Il y a des kilomètres jusqu'au plus proche village de colons.
Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit à mon arrivée, Nels? J'aurais appelé McGrath. Ça paraît important.
À quoi bon, John? Qu'aurions-nous gagné à faire venir une quantité de gens? Si ce sont des malandrins ayant de mauvaises intentions, ils prendront le maquis s'il vient du monde. Mieux vaut faire semblant de ne s'apercevoir de rien.
Mais s'il faut sauter la mine, nous assumons une lourde responsabilité, Nels.
Tu me crois né d'hier, hein? Celui qui met un pied dans la mine se fait immédiatement prendre dans un piège à renard. Il en sera de même pour celui qui tenterait de bricoler le Junker.
Et celui qui aura mis le pied dans un piège ne bricolera plus rien cette semaine-là, fit John en riant.
Et moi qui avais pensé que tu posais un piège là-bas pour du gibier.
Tu as bien fait de m'en parler avant que je me fasse prendre moi-même.
Mais il y a une chose que je ne comprends pas, Nels. Pourquoi l'État ne fait-il pas garder une mine d'une telle importance?
Tu es fou. Si des militaires s'amènent ici pour monter la garde, la mine n'est plus un secret. Tout le monde sera au courant. Il faudra alors tout un régiment pour garder la mine. Et moi, j'aurai peut-être une petite chance de devenir maréchal des logis, John. Tu me vois un maréchal des logis?
Oh, tu serais certainement très beau, Nels. Mais trêve de plaisanterie, réfléchis. Si on t'attaque quand je suis en l'air, ils profiteront sûrement de cette occasion.
Moi, attaqué en plein jour? Alors tu ne connais pas Nels Van Berg. Tant que j'ai mes yeux et Hampus, mon fusil, avec moi, ils peuvent venir aussi nombreux qu'ils le veulent. Tu verras alors valser les espions pour finalement retomber en pluie sur les montagnes. Ah, tu peux être tout à fait tranquille pour moi.
Qu'est-ce que tu crois qu'ils inventent en ce moment, Nels? Qui ils?
Si tu penses au pou, tu peux dormir tranquille. Aucun pou ne survit à l'hiver de Kantishna. Mais il y a des rats.
Oh, triple imbécile. Aux espions que je pense. Car il y en a certainement plusieurs, tu ne crois pas?
Sûrement, John. On ne vient pas seul ici pour faire sauter la mine. Ils sont probablement installés dans une cabane abandonnée, à l'ouest de la ville. Et peut-être en train de regarder le minerai de très près. Ils doivent être au moins trois. L'imagination de Nels Van Berg travaillait. Il s'assit les yeux brillants.
Ils sont peut-être même quatre, dit John. Et l'un d'entre eux est sûrement géologue et formidablement calé en matière de roche.
John se déchaînait à son tour, mais Nels intervint.
Ne me coupe pas la parole, John. C'est moi qui ai pensé le premier aux espions.
Oui, je veux bien qu'il soit quatre, dont un géologue. C'est bien ce que tu as dit.
Il a apporté un microscope et il regarde le tas de minerais sur toutes ses faces.
Oh ! On ne peut pas mettre un morceau de minerai sous un microscope.
Alors il en a gratté un grain de poussière, ça suffit. Ne m'interromps pas, je te dis.
La voix de Nels Van Berg avait pris un ton menaçant. Mais John paraissait extrêmement vexé.
Si tu ne me laisses pas plaisanter, aussi tu n'auras pas le droit d'utiliser géologue. C'est moi qui l'ai inventé.
Bon, John, ok. J'échange le tas de minerai contre le géologue. Ce n'est donc qu'un grain de poussière qu'il met sous le microscope.
Les deux hommes éclatèrent d'un rire sonore.
Il est peut-être dangereux de trop plaisanter, dit Nels Van Berg. Ils peuvent s'amener ici à n'importe quel moment. Si toutefois il y a quelqu'un. Mais je me fie au piège à renard. Il n'existe pas de meilleure sonnerie d'alarme. Et j'ai poussé le verrou.
Bon, eh bien, alors dormons. Bonne nuit, Nels.
Bonne nuit, John. T'en fais pas si les murs grincent et craquent. Ce sera la tempête.
John?
C'est important?
Juste une petite question. Y a-t-il des avions pour la Suède?
En masse, plusieurs avions par jour. Et bientôt, tu pourras voler directement de l'Alaska jusqu'à Stockholm par le pôle Nord. La Suède se trouve juste de l'autre côté du globe.
Bonne nuit, Nels.
C'est donc l'après-midi pour eux actuellement. Et quand c'est le jour pour nous, pour eux, c'est la nuit.
C'est drôle d'y penser, John.
Je dors.
La tempête se chargea de la conversation. Elle récitait un monologue et se parlait en employant 100 voix différentes, des voix qui montaient, qui descendaient et qui parfois se taisaient pour reprendre de plus belle.
Ce fut pendant une pause que la chose arriva. Un cri épouvantable déchira l'air de Kantishna. Une drôle d'histoire.
Nels Van Berg fut debout le premier. Saisissant son fusil, il courut à la fenêtre et entrouvit avec précaution le volet. De là, il voyait jusqu'à la mine. Il pleuvait légèrement et l'aube était grise et brumeuse.
Un homme, vêtu d'une veste de cuir noir, se tordait par terre. Le piège à renard l'avait saisi à la cheville. Il essayait de se débarrasser de cet appareil cruel qui s'accrochait à lui. Et il hurlait comme un fou. Une grande boîte métallique était placée à l'entrée même de la mine.
John, monte au premier étage et dis-moi ce que tu vois. Il y a une lucarne du côté du lac. Mais attention, l'escalier est vermoulu.
En quelques bonds, John fut en haut.
Trois hommes en imperméable tournent autour du Junker, dit Nels.
Grand Dieu, voilà qu'ils se dirigent de ce côté-ci. Ils ont dû entendre les cris.
Parfait, John. Prends le fusil. Tire un coup en l'air. Tâche de les obliger à s'éloigner de l'avion. Pendant ce temps, je vais m'occuper de notre ami, celui que nous venons de capturer.
John s'agenouilla près de la petite lucarne. Les trois hommes s'étaient dispersés et couraient à toute allure dans la direction de la mine. Deux d'entre eux portaient des mitraillettes, le troisième avait un fusil sur l'épaule. John visa à quelques mètres devant le premier et tira. N'étant pas un très bon tireur, il n'osait pas viser plus près. Le coup l'assourdit et le recul du gros fusil lui donna un choc à l'épaule. Les trois hommes se plaquèrent au sol. Il les vit ramper vers le ruisseau comme les personnages d'une histoire de Sioux. Il chargea et tira encore un coup, le fusil ne pouvant contenir qu'une charge à la fois. John n'était pas encore bien certain d'être réveillé. C'était si inattendu, si vite arrivé. Une seconde, la pensée l'effleura qu'il aurait pu les tuer tous les trois. Il se demandait qui pouvait bien être ces malfaiteurs. Des agents d'une puissance étrangère? Oui, oui, et ces messieurs n'y allaient pas par quatre chemins. Il était content de pouvoir apercevoir le Junker. Il y avait un fusil dans la cabine du pilote et puis la radio. Il regrettait bien pour le moment de ne pas l'avoir près de lui. Les dos avaient disparu. L'inquiétude de John monta de plusieurs degrés. Il n'aurait pas dû les laisser s'échapper ainsi. Il aurait dû leur crier de se rendre. Il avait manqué de fermeté et de décision. Nels serait furieux en l'apprenant à son retour. Il mettait du reste un temps fou à revenir. Brusquement, un coup claqua sur le bord supérieur de la lucarne et une pluie d'éclats de bois le piquèrent au visage. Instinctivement, il roula sur le plancher. Une autre détonation retentit encore. On le visait. Il entendit du bruit dans l'entrée. Un bruit sourd. Une porte fut ouverte à coups de pied. Des gémissements, des plaintes, des pas qui traînent. « C'est toi, Nels ?»« Oui, reste là-haut. Tu tires mal, il me semble. Tu les as ?»« Non, mais eux, ils m'auront bientôt. »« Baliverne, ça commence mal. » Mais reste tranquille, et quand tu en verras un, tire pour de bon cette fois. Nous avons un prisonnier, John, un grand diable barbu et sale. As-tu une boîte de pansements? Dans mon sac à dos, Nels, la poche extérieure gauche. Est-ce qu'il est gravement blessé? Comme on l'est en sortant d'un piège à renard, ni plus ni moins. En tout cas, il n'a aucune chance de se sauver dans le quart d'heure. Il était bien mal armé, juste un petit revolver. Il a fait de son mieux pour l'essayer sur moi. Est-ce que tu as parlé avec lui, Nels? Impossible. Il ne parle pas notre langue. Mais il a apporté une machine infernale. Un grand truc brillant dans lequel on entend un tic-tac. Un tic-tac? La voix de John était un cri de détresse. Je descends immédiatement, Nels. C'est peut-être une bombe à retardement. Dans ce cas, il va falloir agir avant qu'il ne soit trop tard. C'est une machine infernale, je te l'ai dit, John. Et à retardement aussi. Tu vas rester où tu es. Je vais te relever dans un moment quand j'aurai fait un peu de ménage ici. Il ne faut pas perdre le Junker de vue une seule seconde. Je ne crois pas que ces messieurs se feront prendre dans un second piège. S'ils peuvent sauter dans le Junker, ils ficheront le camp, bien entendu. Et alors il ne nous restera ni bandits ni appareil. John risqua un regard par une fente à côté de la lucarne. Il sentait qu'on le guettait. Quelque part dans le lit du ruisseau, il y avait un homme avec un fusil. Un homme qui certainement était un excellent tireur et qui ne demandait pas mieux que d'en faire la démonstration immédiate. Mais la machine infernale, la pensée de cette machine le rendait presque fou. Ned était donc complètement toqué, ne comprenait-il pas le danger? Une nouvelle détonation. Cette fois-ci dans la pièce. La balle entrée par la lucarne s'était logée dans le mur derrière lui. Quel dommage qu'il n'y eût pas une lucarne du bon côté dans le saloon. John commençait à en avoir assez de se battre contre un gaillard qu'il ne voyait pas. Nels monta lourdement l'escalier. Les marches vermoulues craquaient d'une façon inquiétante. Il semblait épuisé. Sa tignasse grise était hirsute. Hello, John. Ouf! C'est fatigant de faire la guerre et de capturer des prisonniers. J'ai d'abord mis un pansement à ce pauvre type, puis je lui ai bien attaché les mains. Il est couché sur ta paillasse pour se remettre un peu. Il ne semble pas exagérément inquiet. J'imagine donc que l'explosion de cette machine infernale n'est pas pour tout de suite. Penche-toi, Nels. Une balle fendit une planche du mur. Nels Van Berg se jeta à quatre pattes. Il semblait très surpris.
Il tire ? Sur moi ?
Non, sur moi. C'est mon secteur, Nels. Si seulement se pouvait apercevoir ce misérable, mais il se cache comme un rat. Ils ne sont certainement pas plus de quatre, John. Pour deux d'entre eux, nous sommes fixés. Mais où nichent les deux autres ? J'ai barricadé la porte et les volets. J'ai juste laissé un petit trou pour voir du côté de la mine en cas de... Nous sommes si mal armés, c'est ce qui est le plus grave. Rien qu'une escopette. Le revolver que nous avons pris ne compterait que dans un corps à corps. Oui, et les deux autres ont des mitraillettes. Je m'en suis douté, John. Ils se demandent pour le moment comment nous atteindre le plus facilement. Ils savent que nous gardons leur ami et que nous avons la machine infernale. Ils savent également à quelle heure elle sautera. Il s'agit probablement de quelques heures. Ils ont calculé le temps nécessaire pour placer leur appareil tranquillement, vérifier avec soin le Junker et s'envoler avant l'explosion. Ils savaient que nous nous étions endormis tard et pensaient bien que nous n'allions pas ouvrir l'œil de si tôt. Nous aurons certainement de leurs nouvelles quand l'heure approchera. Il existe d'innombrables cachettes dans ces vieilles bicoques. Mais Nels, ne crois-tu pas que nous pourrions venir à bout de cette machine infernale nous-mêmes ? Impossible, John. Il ne faut pas trop tripoter de tels engins. Si l'on provoque un court-circuit, on n'a jamais le temps de s'en repentir. Je ne crois pas que notre ami du piège à renard soit bien calé non plus. Il est certainement l'homme de peine de l'équipe. Ah, quel boulot, hein ? Aller et venir avec une machine infernale dans une mine d'uranium. Mais descends voir, toi, si tu as envie. Je monte la garde ici en attendant. John descendit doucement l'escalier. Il mit du temps à s'habituer à l'obscurité du saloon. Les volets fermés, la lumière ne pénétrait que par les fentes du mur. Le prisonnier était couché sur la paillasse. Un tout jeune homme, avec des cheveux noirs et une barbe de 8 jours. Il posa son regard sur John. Ses yeux semblaient là, sans aucun éclat. On n'y lisait que fatigue et découragement. John lui fit un signe de tête et s'installa sur la paillasse de Nels. À ce moment-là seulement, il prit conscience du tic-tac. La machine infernale se trouvait juste derrière lui. Elle avait la taille d'une valise et était en métal brillant. Il n'y avait ni bouton ni prise visible. Rien qu'une serrure de sûreté. Il fallait évidemment une clé très spéciale pour atteindre le mécanisme d'horlogerie. Tic-tac, tic-tac, disait la machine. C'était sinistre et régulier. Tic-tac, tic-tac. Que pouvait bien cacher cette surface lisse ? John eut envie de prendre une hache et de forcer la serrure. Mais en regardant de plus près, il dut reconnaître que tout essai serait vain. Le métal de la serrure paraissait solide comme celui d'un coffre-fort. Il regarda le prisonnier. Indiquant la machine infernale, il fit le geste de tourner une clé. Mais l'étranger ne faisait que secouer la tête. Ses yeux tristes étaient vides et ternes. John le fouilla, vérifia chaque poche et trouva un paquet de cigarettes américaines et une boîte d'allumettes. Pas de clé. Il mit une cigarette entre les lèvres du prisonnier et frotta une allumette. L'étranger aspira avidement de longues bouffées. John regarda l'heure. Le piège avait claqué à 4h-10. Il était maintenant 4h30. En supposant que le mécanisme eût été en route environ 20 minutes avant l'arrivée de l'étranger à la mine, l'appareil était donc en marche depuis 1 heure. Il se demanda un instant s'il ne fallait pas lancer cette boîte à tic-tac par la fenêtre. Mais ce n'était pas raisonnable non plus. Probablement la charge était assez forte pour les détruire même s'il l'éloignait de quelques mètres. Deuxièmement, ce serait livrer la boîte aux mains de l'ennemi où qu'il se trouvât. Il tendit l'oreille. La tempête faisait toujours craquer les murs, mais elle semblait faiblir un peu. La pluie était plus forte et les coups de vent moins furieux. Un nouveau bruit était entré dans ce conseil. On aurait dit qu'on grattait avec insistance, et cela provenait des soubassements de la maison. John colla son oreille contre le plancher. Il perçut le bruit nettement. Quelqu'un se trouvait sous le plancher. Une taupe, pensa-t-il, une grande taupe à deux pattes. Le prisonnier avait entendu également. Ses yeux ne trahissaient rien, mais son attitude avait changé. Il ne gisait plus inerte et indifférent. Il était tendu, les muscles de son cou saillaient comme des racines d'arbre quand il levait la tête. John monta voir Nels. Il eut un sursaut en le trouvant debout devant la lucarne. « Tu en as assez de la vie, mon vieux ?»« Aucun danger, John. Notre tireur s'est faufilé entre les maisons. Il a été si rapide que je n'ai pas eu le temps de tirer. Nous avons les deux autres comme voisins. Une petite cloison en bois nous sépare. Je me suis amusé à les écouter en douce. On dirait qu'ils sont en train de manger. Ils chuchotent et déplacent de vieux meubles. Et moi, en bas, dit John, j'ai une taupe. John n'eut pas le temps d'en dire davantage. Un crépitement assourdissant coupa brusquement le silence. La mince cloison fut littéralement hachée en petits morceaux. Les éclats de bois volèrent dans la pièce accompagnés d'une âcre odeur de poudre. John et Nels réagirent sur le champ. Ils se jetèrent la tête la première dans l'escalier, ils sentirent les marches céder et roulant sur eux-mêmes, échouèrent l'un sur l'autre en bas dans le saloon. Ils n'eurent pas le temps de se demander s'ils s'étaient fait mal. Le crépitement de la mitraillette ne s'était pas arrêté, et ils traversèrent la pièce à quatre pattes pour se mettre à l'abri derrière le comptoir. Brusquement, ce fut le silence. Ils ont abattu la cloison à Alta Nels. Aïe ! Je crois que je me suis foulé la cheville en valsant dans l'escalier. Tu as l'impression qu'elle est cassée ? Non, je ne crois pas. Mais ouvre l'œil pendant que je vérifie. Prends le fût. Nels avala le reste. Il souleva l'escopette qu'il tenait à la main. Le fusil était cassé en deux, le canon cabossé par plusieurs impacts. L'arme était devenue inutilisable et cela se voyait de loin. Hampus, sanglota-t-il, mon cher Hampus, de quoi as-tu l'air grand Dieu ? Qu'allons-nous devenir maintenant, Nels ? Il ne nous reste que le revolver. Tu vois, John, Hampus m'a sauvé la vie, il a pris toute la décharge de balles. Je l'aurais reçu dans la hanche autrement. Nels sortit le revolver de sa poche. C'était un tout petit Browning. Regarde-moi ce moustique, John. À combien de mètres crois-tu qu'il ait la force de cracher ? 3, 4, 5, 6 peut-être. On ne peut pas viser, on ne peut pas compter sur lui. Un fusil, ça c'est une arme, John. C'est un ami à qui tu peux faire confiance, un ami qui peut te secourir comme c'est nécessaire. Nous avons aussi un ami sous le plancher. On dirait qu'il approche. Ils collèrent l'oreille contre le plancher. Ils entendaient gratter et souffler comme si quelqu'un avançait péniblement. Est-ce qu'il y a une cave sous la maison, Nels ? Non, pas une cave. Rien qu'un petit espace entre le sol et le plancher. Un très petit espace, si ma mémoire est bonne. Mais Mickey avait creusé ici, juste derrière le bar, un trou un peu plus profond. Il y mettait les bouteilles à rafraîchir. Il y avait une trappe aussi, je m'en souviens. Tiens, la voilà, John. C'est donc ça que notre taupe est en train de chercher, chuchota John. Il a probablement une lampe de poche, puisqu'il semble pouvoir se diriger. La trappe est-elle fermée, Nels ? Elle l'était. Je viens d'enlever le crochet, John. La voie est libre pour les taupes. Et Hampus sera capable de me rendre encore un petit service si
qui je lui demande gentiment. Qu'en dis-tu, homme puce ? Sois un bon fusil, joue au bâton pour une fois, une seule fois. Quelle stratégie, Nels ! La taupe nous croit tout occupée là-haut par le prisonnier, et elle croit que nous ignorons son existence. Mais tu vas voir, le plomb va bientôt pleuvoir du premier étage. Ils ont traversé la cloison et sont en train de s'installer confortablement. John rampa sans faire de bruit vers le côté du comptoir le plus proche du fourneau. Il avança ensuite doucement, à plat ventre, vers la machine infernale, qu'il déposa derrière le comptoir qui lui semblait très solide. Puis, prenant un nouveau risque, il tira la paillasse et le prisonnier dans la même direction. L'étranger le regardait sans comprendre. « Que fais-tu ? » chuchota Nels. « Je mets nos objets de valeur à l'abri, » répondit John à voix basse. « Au cas où il y aurait un bombardement, le comptoir tiendra-t-il ? »
« Mais bien sûr, John, il a été fait avec les planches les plus épaisses qu'on puisse trouver en Alaska. Pas une mitraillette au monde ne pourrait transposer cette paroi. »
Tic-tac, tic-tac. John avait l'impression que la machine infernale avait élevé la voix. Ou n'était-ce que son imagination ? Cette attente angoissée rendait son oreille plus sensible. Que pouvait-il bien faire là-haut au premier étage ? Le silence semblait interminable.
Psst ! Il touche la trappe à tâtons, chuchota Nels.
John s'approcha du fourneau et prit la cafetière.
Une petite goutte de café, même froid, ne nous fera pas de mal. Brrr, brrr.
Une rafale de mitraillette frappa le mur. Il tirait mal là-haut, mais c'était difficile de viser dans l'obscurité. Brrr. Le bar reçut une autre décharge. Les planches craquaient mais tenaient bon. Silence. Puis une voix, avec un fort accent étranger, cria.
« Ohé les gars, écoutez-moi. Il faut vous rendre. Vous êtes perdus. Explosion, catastrophe. 20 minutes. » « Dis-leur d'aller au diable, » chuchota Nels. « Ah vraiment, c'est dans 20 minutes. Eh bien cramponnez-vous, on n'est pas seul dans le coup. »
Il était à genoux et surveillait la trappe. Elle ne bougeait pas encore, mais on entendait l'intrus remuer.
« Ohé, les gars, écoutez, il faut vous rendre. Nous vous ferons grâce. Donnez-nous la boîte. Vite. 17 minutes. »
John regarda sa montre. Oui, c'était exact. Il comptait bien là-haut. Il parlait sans arrêt pour attirer l'attention sur eux. La taupe allait sûrement surgir d'une minute à l'autre.
Pilote de l'Alaska par K. A. Schwarzkopf, troisième cassette, première face, page 95.